1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.
Luther, qu'en reste-t-il ? Cette émission vous est proposée par Radio Arc-en-Ciel.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Renard-Hégé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la médiathèque protestante de Strasbourg et vous êtes également vice-présidente de l'UEPAL, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Durant cette émission, nous allons traiter de trois points clés afin de voir finalement qu'est-ce qui reste encore de Luther aujourd'hui. J'ai l'habitude de poser cette question à mes invités, qui est Luther ? On commence un peu à le connaître, du coup on va le faire un peu différemment aujourd'hui parce que Luther était quelqu'un qui était marqué par sa crainte qu'il avait par rapport à la mort, par rapport au salut. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, expliquer un peu le contexte, dire peut-être ce que c'est le salut, et voilà, revenir un peu sur ce point tout en présentant aussi ce fameux Martin Luther.
Eh bien, ça fait beaucoup de questions. Eh bien, il faut se rappeler un peu le contexte. On est à la fin du Moyen-Âge, les gens meurent de la peste, il n'y a pas de médicaments, quand on a une rage de dents, c'est l'horreur, les enfants meurent en bas âge, l'espérance de vie, elle dépasse pas les 35-40 ans. Et l'Église a un poids extrêmement important. Quand on est au Moyen-Âge, on est chrétien et on peut pas ne pas être chrétien. Et l'Église a pris le pouvoir sur les gens en jouant sur cette peur de la mort et sur cette peur de l'enfer. Quand vous allez visiter des églises avec des fresques ou avec des peintures, vous voyez souvent des fresques du jugement dernier où il y a les justes d'un côté et puis tous les damnés qui sont dans des positions absolument terrifiantes avec des petits diablotins, avec des monstres. Enfin, il y a toujours. Enfin, je pense que les gens sont obsédés par cette idée que il faut gagner son salut et que si on n'est pas sauvé, c'est l'enfer, c'est vraiment terrible. Et à cette époque-là, il faut donc gagner son salut. Et l'Église, elle permet même d'acheter son salut. On peut, en payant une certaine somme d'argent, qui va permettre d'ailleurs de construire Saint-Pierre de Rome, on peut gagner son salut. Et Martin Luther, c'est un moine très pieux, qui c'est aussi un théologien, un docteur en théologie, qui vit dans un couvent, et qui est, comme la plupart des gens de cette époque-là, terrorisé par l'idée qu'il pourrait ne pas plaire à Dieu. Donc il s'impose une vie très très dure, très ascétique, mais il ne trouve pas le repos. Il n'arrive pas, ça l'empêche de dormir, c'est quelqu'un qui est rongé par l'angoisse. Et c'est en lisant la Bible, puisque c'est un théologien, et en tombant tout d'un coup sur, en lisant l'épître aux Romains de Paul, enfin je pense que dans les émissions précédentes ça a été raconté, il découvre que le salut c'est pas quelque chose qu'on doit gagner, mais c'est quelque chose qu'on reçoit, que Dieu nous offre gratuitement, et ça transforme complètement sa vie.
On l'a vu, donc Martin Luther était emprisonné, était marqué par cette crainte qu'il avait par rapport à la mort et au salut. Est-ce que, selon vous, c'est toujours quelque chose qui est présent aujourd'hui, ou comment peut-être cette crainte s'est déplacée sur un autre sujet, peut-être aujourd'hui 500 ans après.
C'est vrai que je pense que si on demande à l'homme de la rue aujourd'hui s'il a peur de l'enfer, il va vous rire au nez. S'il est sûr de son salut, il va pas comprendre de quoi on parle, parce que ce sont des questions qu'on se pose plus tellement aujourd'hui. Par contre, je pense que là où on n'en a pas fini, c'est avec la culpabilité, c'est-à-dire que Luther se sentait coupable, coupable du péché, coupable de ne pas plaire à Dieu. Et nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est sans arrêt rattrapé par la culpabilité. Vous regardez, même dans votre propre vie, il vous arrive un petit pépin, vous éraflez votre nouvelle voiture, même si c'est pas grave, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Vous avez un grave accident où on vous annonce un cancer, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Donc, cette idée que on est coupable de quelque chose, on sait pas trop quoi. Mais quand il nous arrive une tuile, on cherche un coupable et on cherche surtout quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous empoisonne quand même pas mal la vie, qui empoisonne le quotidien. Et le message de Luther est incroyablement libérateur parce qu'il nous affirme que le salut, c'est une question qui a été réglée. C'est fait une fois pour toutes. Le Christ est venu pour le péché du monde, pour donner sa vie, et Dieu nous voit à travers Jésus-Christ comme juste et comme agréable à lui. Donc on n'a plus besoin de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? On n'a plus besoin de se demander en permanence, est-ce que je vais plaire à Dieu ? Puisqu'en fait, Dieu nous voit à travers son fils Jésus-Christ.
Luther avait cette envie, finalement, que le message qu'il, lui, a découvert et redécouvert dans la Bible soit accessible au plus grand nombre. Et pour cela, il a traduit la Bible en allemand. Comment a-t-il procédé et comment lui est venue, finalement, cette idée de rendre accessible la Bible et, finalement, comment il l'a fait ?
Ben là aussi, il faut se rappeler le contexte. À l'époque, au Moyen-Âge, il y a quand même, tout le monde ne le savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Et toutes les cérémonies d'église se passaient en latin. Donc le peuple, les gens du peuple, les gens comme vous et moi, quand ils allaient à l'église, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors bon, ils avaient une certaine habitude, il y avait aussi les vitraux qui racontaient les histoires de la Bible, mais tout ce que le prêtre disait, c'était quelque chose de mystérieux. Et Luther, pour Luther, cette découverte que l'évangile est pour tout le monde et que la Bible est tout à fait centrale, c'était quelque chose de tellement révolutionnaire qu'il a trouvé absolument important de traduire la Bible dans la langue du peuple, donc dans l'allemand que parlaient les gens de l'époque. Alors il n'est pas le premier à avoir fait ça, hein. Il y a eu des pré-réformateurs comme Pierre Valdo ou comme d'autres qui avaient déjà traduit la Bible dans la langue du peuple, mais enfin ils étaient très très mal vus et certains ont péri sur le bûcher. Et moi je trouve ça très important pour nous aujourd'hui parce que dans les églises, on a souvent tendance ou on a parfois tendance à parler un langage que seuls les chrétiens comprennent. Alors, bien sûr, on a nos Bibles en français. Il y a eu beaucoup de progrès faits aussi, la Bible en français courant, la Bible en français fondamentale. Mais quand on parle entre nous ou quand on a des prédications, on a parfois un vocabulaire dont nous on a l'habitude et qui ne parle plus aux gens. Je donne des exemples, quand on parle de sanctification, quand on parle de rédemption, même quand on parle de salut aujourd'hui, ça veut dire quoi ? On est sauvé de quoi ? Quand on dit salut aujourd'hui, c'est pour se dire bonjour quoi, salut. Mais sauvé de quoi ? Et je trouve que cet effort en permanence de revisiter notre langage, de le mettre à la portée de tout le monde, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et qui me demande aussi beaucoup d'efforts, mais qui me paraît très très important.
Vous l'avez abordé dans certains propos, ce que Luther finalement voulait remettre au centre, c'était le message de l'évangile, on va y revenir. Je reprends. Ce que Luther voulait remettre au centre, finalement, c'était le message de l'évangile. Vous l'avez un peu abordé précédemment. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est, tout simplement, ce message de l'évangile que Luther a redécouvert et qu'il voulait aussi transmettre ? On vient d'en parler avec cette traduction de la Bible aussi pour le peuple.
C'est difficile de résumer le Nouveau Testament, mais moi je dirais que le grand message de la Réforme et le message de Luther, c'est de dire que l'homme est aimé bien avant même qu'il soit né. Il y a des passages de la Bible qui nous disent que Dieu nous connaissait avant même que nous soyons tissés dans le ventre de notre mère. Et que donc nous sommes aimés d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Moi, je trouve ça très touchant parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où si on n'est pas jeune, en bonne santé, sportif et beau, c'est pas toujours facile. Hein, je veux dire, c'est pas toujours facile de trouver du travail, c'est pas toujours facile d'être toujours au top. Nul d'entre nous n'est toujours au top. Et la société laisse sur le bord du chemin les bras cassés et ceux qui sont pas dans la norme. L'Évangile, il nous dit que quel que soit l'état dans lequel je suis, Dieu m'accepte et m'aime comme je suis.
Justement, dans les Évangiles, hein, ces livres de la Bible où finalement où il est tout simplement expliqué l'Évangile, il est question d'abaissement, d'humilité et également de ces renversements de valeurs. Est-ce que vous pouvez tout simplement déjà nous expliquer cela et ce qui est dit aussi dans la Bible et finalement en quoi c'est pertinent aujourd'hui ? Vous venez déjà un peu de l'aborder aussi.
Alors, Luther, il avait deux expressions que je trouve très parlantes. C'est qu'il parlait du Dieu caché, le Deus absconditus. Il disait, Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Personne n'a, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'était impossible de la voir. On était terrifiés. Donc, Dieu, c'est quelque chose qui est inimaginable pour l'esprit humain. Donc, on ne peut pas vraiment le définir. Donc, c'est le Dieu caché. Mais Dieu s'est révélé, donc le Dieu qui se révèle, il se révèle en Jésus-Christ. Et Luther, il pointe une spécificité, il dit le Dieu de Jésus-Christ, celui qui se révèle en Jésus-Christ, c'est pas un Dieu tout-puissant et magnifique et très grand. C'est un Dieu qui se révèle dans un bébé, qui naît dans une étable. C'est un Dieu qui va certes faire des miracles, mais qui souvent va dire « n'en parlez pas ». Rentrez chez vous et soyez transformés, mais n'en parlez pas autour de vous. C'est un Dieu qui va rentrer dans Jérusalem sur un ânon, c'est-à-dire qui va être acclamé par la foule, mais qui ne va pas arriver sur des magnifiques chevaux et avec des magnifiques parures. Et c'est un Dieu qui va mourir sur la croix. Donc c'est un Dieu qui se révèle dans toute sa faiblesse et dans toute sa vulnérabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire que quel que soit le chemin que j'emprunte, que je sois malade, que je sois dépressif, que je me sente pas bien, eh ben, Dieu m'accompagne et se révèle dans ces petites choses-là et dans mes faiblesses. Il se révèle pas quand je suis en pleine forme. Paul, il y a l'apôtre Paul qui dit aussi que la grâce de Dieu se révèle dans sa faiblesse, dans la faiblesse de Paul. Paul, il disait qu'il avait une maladie dont il n'arrivait pas à. Enfin, il avait prié pour être guéri et en fait Dieu lui avait dit, eh bien non, ma grâce te suffit et ma puissance se révèle dans ta faiblesse. Et nous qui avons toujours envie d'être les meilleurs, qui avons toujours envie d'être beaux et parfaits, eh ben, le Dieu de Jésus-Christ, il nous dit, ben non, c'est dans toute ton humanité, dans toute ta fragilité que je te reconnais et que je t'aime et que je me révèle.
Finalement, on peut dire que c'est un message libérateur en quelque sorte.
Ben oui, mais c'est un message qui nous prend un peu à rebours, parce que quand Jésus dit que les premiers seront les derniers, que les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux, c'est quand même, ça pose beaucoup de questions, parce que on a tellement facilement envie de juger les autres et de les mettre dans des boîtes. Eh ben, ce renversement de valeurs, ça nous interroge beaucoup.
Merci Patricia Renaréger d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes, et on se dit à une prochaine fois.
À bientôt.
Cette émission vous a été proposée par Radio Arc-en-Ciel à Strasbourg.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.